C'est l'été sur France Musique.
Bonjour Vladimir Cosma.
Bonjour Clément Larchois.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être là avec nous ce matin sur France Musique pour évoquer un très beau concert que vous allez donner ce soir dans le cadre du festival Mille et une notes en Limousin. Ce sera au parc du Mazeau à Saint-Priest-Thorion. Un concert qui va rassembler quelques-unes de vos plus grandes musiques de films. Un concert qui sera précédé aussi d'une relecture en avant-concert par deux pianistes de certaines de vos musiques, Nicolas Horvat et Laurent Coulondre. Mais avant de parler de ce festival, Vladimir Cosma, le 14 juillet dernier, un chœur de 132 jeunes a interprété en clôture du défilé du 14 juillet, place de la Concorde, l'hymne de la vie. C'était face au président Emmanuel Macron. C'est une chanson qui avait servi de générique au dessin animé Les Mondes Engloutis dans les années 80, que vous avez composé, Vladimir Cosma. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre votre musique au programme officiel des cérémonies de notre fête nationale?
Bah écoutez, j'étais très ému. Je dois le dire, surtout que j'étais pas prévenu. Et je l'ai découverte comme ça en direct. Et ça m'a fait chaud au cœur.
Ça, c'est quand même la preuve que vous écrivez, que vous avez toujours écrit une musique qui rassemble, Vladimir Cosma.
Oui, enfin, j'ai écrit une musique qu'on appelle populaire. Mm-hmm. Populaire, pour moi, c'est pas un terme péjoratif, c'est un terme noble. C'est-à-dire que pour moi, populaire, la cinquième de Beethoven, c'est populaire, ou la symphonie de Mozart, c'est populaire. Donc ça m'intéresse et je ne prends pas du tout ça comme une insulte, mais au contraire, comme un compliment.
Au contraire, c'est un compliment, une musique qui relie les gens entre eux. Alors vous allez, on l'a dit tout à l'heure, vous allez diriger ce soir à Mille et une notes en Limousin, quelques-unes de vos plus grandes bandes originales. Je dis quelques-unes parce que vous en avez composé plus de 500, je crois. Alors j'imagine qu'on vous demande toujours les mêmes.
On me demande plus, en fait. C'est-à-dire que on me demande de faire des concerts et le programme, c'est moi qui le fais. Mais je sais que le public qui vient veut entendre forcément le Grand Blanc avec une chaussure noire, forcément le Rabbi Jacob, forcément la chèvre, la boum. Donc j'ai une espèce de choix assez limité parce qu'une fois que j'ai mis ces plus grands succès, j'ai rempli presque mon programme, mais je laisse la place pour quelques nouveautés.
Alors attention, il faut préciser aux auditeurs de France Musique que vous ne jouez pas exactement la version des films. Ce sont des musiques de films que vous avez complètement retravaillées systématiquement. Donc vous avez fait des suites, parfois des concertos
voilà,
aussi.
J'ai fait cette fois-ci, j'ai fait des orchestrations pour un orchestre de chambre de cordes. C'est-à-dire que c'est une réécriture complète, même par rapport à mes concerts que j'ai déjà donnés. On diminue l'effectif. C'est pas uniquement pour des raisons commerciales ou comptables. C'est aussi une autre façon de voir la musique. Vous savez, souvent pour les films, je l'ai enregistré avec des formations plus restreintes que celles que je fais pour donner des concerts où j'ai développé beaucoup les musiques au niveau de la durée et tout ça, du développement. Alors que cette fois-ci, je suis resté plus proche de ce que les gens connaissent dans la bande originale du film.
De toute façon, finalement, on pourrait résumer en disant que vous ne faites ni plus ni moins que comme faisait déjà Monteverdi à l'époque, quand on jouait d'une église à une autre, d'une salle à une autre, on adaptait son effectif à la musique, hein, tout simplement.
Exactement.
Alors on va peut-être commencer, nous, à écouter aussi ensemble ce matin un des extraits, vous l'avez dit, celui qu'on vous demande tout le temps, c'est bien sûr Rabbi Jacob, la musique de ce film de Gérard Houry. Quel souvenir gardez-vous de ce film, du travail avec Louis de Funès?
Je garde d'abord un souvenir extraordinaire parce que toute ma jeunesse, j'ai rêvé de Louis de Funès, même en Roumanie. Alors, le jour où j'ai eu l'occasion de faire ma première musique pour de Funès, c'était le Rabbi Jacob. J'étais très fier et très désireux de le servir comme il fallait, quoi.
We'll be right back. musique qui est mythique, tout simplement mythique. Le grand Rabbi, au tout début, c'est le générique du film Rabbi Jacob. C'est votre musique, Vladimir Cosma, que le public du festival Mille et Une Notes en Limousin pourra réentendre ce soir. Moi, j'ai envie de vous demander comment ça se passait le travail pour le cinéma. Est-ce que vous assistiez au tournage de certaines scènes? Est-ce qu'on vous envoyait des images? Est-ce que vous écriviez par-dessus l'image? Ou est-ce que parfois vous écriviez sans avoir vu le montage, les scènes?
Écoutez, dans tout ce que vous avez énuméré là, tout est vrai. C'est-à-dire que parfois je vois des images, parfois je ne vois pas, parfois je lis le scénario, parfois je parle avec... Mais souvent, j'écris des musiques avant le tournage, notamment dans le Rabbi Jacob. Il fallait écrire la célèbre danse que De Funès allait danser. Donc j'étais engagé d'abord en faisant un enregistrement de cette danse qui était une espèce de galop d'essai pour savoir si je vais être engagé ou pas pour le film. Donc c'était fait avant que le tournage soit fait, puisque un jour on m'a appelé pour me dire voilà, vous voulez rencontrer Gérard Loury. Bon, Gérard, sur le tournage du film qui était en train de se faire, il m'a dit dans un mois je tourne une des scènes mythiques les plus importantes du film, qui va être la danse de Funès. Il faut que j'aie une musique pour qu'il puisse danser sur sur cette musique. Donc j'ai fait la musique et ça a été accepté, et De Funès a dansé en playback sur cette musique après avoir répété avec lui pendant un mois chez moi à la maison.
Est-ce que vous allez toujours au cinéma aujourd'hui, Vladimir Cosma?
Non, j'ai jamais été grand client de cinéma. J'allais au cinéma uniquement pour les musiques. C'est-à-dire quand on me disait, il y a tel film où il y a une musique intéressante, j'y allais. Mais sinon, je préfère les concerts ou les livres. Je vais pour un intérêt professionnel.
Quel film est peut-être votre meilleur souvenir de travail, pour lequel vous êtes le plus amusé, pour lequel vous avez pris le plus de plaisir à composer la musique?
Disons que je dirais d'emblée que le cinéaste qui m'a donné le plus de plaisir à travailler avec, et donc sur ses films, c'était Yves Robert, qui m'a donné la chance de faire sa première musique, ma première musique de film, qui était Alexandre le Bienheureux. Et ensuite, j'ai fait tous ses films jusqu'au moment où il a arrêté de tourner. Donc, chaque fois, c'était un enchantement de collaboration, parce qu'il était très musicien. Il n'était pas uniquement cinéaste. Il avait un regard sur la musique pertinent. Et voilà, c'était quelque chose. Il m'a beaucoup appris dans la façon de faire de la musique pour le film, et tout en me disant de ne pas faire de musique de film. Donc je peux vous parler de La gloire de mon père, Château de ma mère, qui sont des films dont il a fait la mise en scène et que j'ai énormément aimé travailler avec, ou Un éléphant sa trompe, etc.
Alors Le Château de ma mère, La gloire de mon père, ce sont des musiques qui sont justement au programme de votre concert ce soir au festival Mille et Une Notes en Limousin. Mais vous savez, il faut dire la vérité aux auditeurs, on prépare ces interviews chacun de son côté. Je ne savais pas que vous alliez me parler spécifiquement d'Alexandre le Bienheureux, et c'est la musique que j'avais choisi de faire entendre maintenant, même si celle-ci n'est pas au programme du concert ce soir en tout cas, parce que c'est une musique que j'aime beaucoup personnellement. C'est celle effectivement qui vous a lancé, et elle est idéale pour tous ceux qui nous écoutent au lit ce matin et qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, envie de se lever. ça, vous voyez, Vladimir Cosma, pour moi, c'est vraiment la musique de l'oisiveté par excellence. La musique d'Alexandre le Bienheureux, L'homme et son chien, plus précisément. Une musique que vous avez dirigée, comme toutes les musiques de films que vous avez composées aussi. Vous avez toujours voulu être compositeur. Vous, dès le départ, dès l'enfance, c'était compositeur spécifiquement ou musicien?
Écoutez, j'ai commencé très tôt. C'est-à-dire que mon père m'a amené un violon à la maison vers les 5 ans. Pourquoi un violon? Parce qu'on avait un appartement très petit. C'était pendant la guerre.
Ça, c'était en Roumanie. Hein.
Oui, en Roumanie, voilà. Et il n'y avait pas la place d'un piano. Donc, il m'a amené ce violon qui, le temps que le piano arrive, j'avais déjà 13 ans, j'étais devenu violoniste. Je donnais déjà des concerts à 8 ans, concerto de Bach, accompagné par mon père au piano ou d'autres pièces. Mais j'avais toujours le désir de la musique, de la grande musique, de la composition musicale. Mais le violon n'est pas un instrument très, très propice à la composition parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de possibilité. Donc j'ai réellement commencé à composer le jour où j'ai eu ce piano. Là, on a changé d'appartement et il y a un piano qui est arrivé vers les 13 ans et je me suis jeté dessus. Et en continuant le violon, qui était mon instrument de base, j'ai commencé à composer.
Vous êtes arrivé en France en 1962, ensuite, et là vous avez eu la chance d'étudier auprès de Nadia Boulanger. Tous les grands compositeurs du XXe, français et étrangers, américains en particulier, ont travaillé avec elle. Est-ce que quand vous vous êtes présenté devant elle, est-ce que vous aviez déjà, j'allais dire, votre patte musicale, votre style musical, ou bien est-ce que c'est venu plus tard avec les films?
Non, curieusement, j'avais mon style. Je l'ai vu sur la recommandation de mon professeur de Roumanie qui m'a envoyé avec une lettre chez elle. Elle m'a accepté comme élève. J'ai même habité plusieurs mois dans une chambre de service de rue Balu où elle avait un appartement. Et par la suite, pour gagner ma vie, j'ai commencé à composer des pièces qui étaient plutôt dodécaphoniques, plutôt musique sérielle, contemporaine, etc. Bon, pour les présenter à des concours internationaux et autres, parce qu'à l'époque, si vous ne faisiez pas de la musique de ce type-là, si vous faisiez de la musique tonale, vous étiez un paria, quoi. Vous n'étiez pas dans la ligne de ceux qu'ont une chance d'être accepté, même dans les concours internationaux. Donc un jour, elle a entendu ce que j'ai fait. Elle me dit, mais pourquoi vous faites de la musique comme ça? J'ai dit, mademoiselle, c'est parce que je dois gagner ma vie. Et elle m'a dit, oui, je comprends. Mais n'oubliez jamais d'où vous venez et qui vous êtes. Et les pièces que vous m'avez jouées en venant me voir, c'est ça qui constitue votre originalité, et ne perdez pas ça, parce que de la musique dite contemporaine, moderne, comme ça, il y en a beaucoup qui peuvent faire, tandis que ce que vous m'avez montré quand vous êtes venu chez moi la première fois, il y en a très peu, et c'est ça qui est votre force.
C'était vraiment ça la personnalité de Nadia Boulanger, hein, de savoir repérer à l'intérieur de ses élèves quelle était leur vraie personnalité profonde. Beaucoup plus récemment, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, il y a eu cette rencontre avec le mandoliniste Vincent Baird-Demandeur, qui a suscité de nouvelles pièces, pas nécessairement cinématographiques d'ailleurs. Vous lui avez composé 24 caprices, dont certains, je crois, sont comme des clins d'œil ou des arrangements à certaines musiques de films. Mais surtout, vous lui avez écrit un concerto
pour mandoline,
qui sera d'ailleurs au programme du concert de ce soir.
Exactement.
À 1001 notes en Limousin. Ça s'appelle le concerto Méditerranéo. Alors c'est quoi? C'est un clin d'œil aux origines napolitaines de la mandoline?
Oui, en quelque sorte, une allusion à la musique méditerranéenne et que j'aime beaucoup. À Marseille, j'ai écrit beaucoup de musique inspirée par la littérature de Marseille, par Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Château de ma mère, la trilogie marseillaise, l'opéra, Marius et Fanny. Mmh. Et dans cette lignée d'inspiration méditerranéenne qui m'a beaucoup attiré. Thank you.
extrait du final de votre concerto Méditerranéo, Vladimir Cosma, avec Vincent Bert, demandeur à la mandoline. Mais ici, un arrangement, on va dire une réduction de l'orchestre pour l'accordéon de Grégory Daltin. Votre arrangement de ce concerto. Vladimir Cosma, si vous aviez la possibilité d'écrire une œuvre, allez, on va dire en totale liberté, sans commande, sans film, sans musicien, juste pour vous, ce serait quoi ?
Ça serait rien du tout. C'est-à-dire que, vous savez, le fait que j'ai continué à faire de la musique et que j'ai composé, c'est très difficile de composer. Vous voyez, il faut sortir de soi quelque chose qui n'existe pas et qu'on invente. Bon, que les gens me demandent de faire telle musique, une musique de film ou une musique de concert ou quoi que ce soit, c'est pour moi un moteur indispensable.
Moi, je voulais vous poser une question sur Paris, parce que finalement, depuis votre arrivée en 1962, vous n'avez jamais quitté Paris, cette ville où votre père aurait rêvé de vivre, en quittant lui aussi sa Roumanie natale. Paris qui a beaucoup changé depuis ces années-là. Est-ce qu'il vous arrive de regretter le vieux Paris, celui des années 60, 70 ?
Ah oui, je n'arrête pas de le regretter d'abord sur le plan musical, sur le plan musical, sur le plan de la vie, sur le plan des gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire que c'est peut-être un regret de vieux qui regrette sa jeunesse, etc. Mais je regrette les cafés qu'il y avait où j'allais au coin de chez moi, je mangeais sans problème des huîtres, des choses qui étaient toujours très très bonnes. Les gens étaient différents. Oui, je regrette
et
ça.
Et pourquoi sur le plan musical, qu'est-ce qu'elle avait de différent ?
Ben, la vie musicale, sur le plan de la musique, notamment de variété, était à un autre niveau. Vous aviez Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Léo Ferré, Édith Piaf. Enfin, ce sont des valeurs qu'on est loin d'avoir aujourd'hui. On peut citer des noms de bons chanteurs, des gens qui font leur métier, mais ceci semble un rêve, quoi, semble quelque chose qui est inaccessible aujourd'hui.
Merci beaucoup Vladimir Cosma d'être venu nous voir ce matin sur France Musique. On va vous souhaiter un bon voyage. On va préciser de nouveau qu'on vous retrouve ce soir au festival Mille et Une Notes en Limousin dans ce programme de musique de film, mais pas seulement. Il y aura aussi donc ce concerto Méditerranéo avec Vincent Bert demandeur. Et puis si on en veut encore plus, on pourra vous retrouver à la rentrée les 15, 16 et 17 octobre. Alors là, avec grand orchestre, ce sera au Grand Rex à Paris. Eh bien, on va se quitter, si vous voulez bien, avec une musique que moi j'ai choisie cette fois, parce que je l'aime bien. C'est le boogie rock final du film Le plus beau métier du monde.
Écoutez, c'est original, parce que c'est pas souvent qu'on le programme. Mais merci de m'avoir accueilli, cher Clément Rochefort. Et puis, j'espère à bientôt, peut-être avant les concerts de Paris.
Mais j'espère, moi aussi. On vous souhaite un très bel été, Vladimir Cosma. le Radies Boogie Rock Final, cet extrait du plus beau métier du monde, la musique, est de Vladimir Kosma. Et je crois qu'on a pu déjà s'en rendre compte, mais tous ceux qui connaissent ces musiques le savent, c'est vraiment une éponge à style, Vladimir Kosma. Il a toujours été capable de composer dans tous les styles possibles, du tango, du reggae, enfin tout, tout, tout. C'est ça le génie de Vladimir Kosma.